Merci de nous accorder cet entretien dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Vous êtes entre autres l'auteur de Sorcellerie et surtout de Black Sad chez Dargo, une série qui connaît un immense succès et qui raconte les enquêtes de John Black Sad, détective privé. Alors que le cinquième tome vient de sortir en novembre, pour vous aujourd'hui, qui est John Black Sad et quel rapport entretenez-vous avec lui ?
C'est curieux parce que effectivement, sans être devenu fou ni ni halluciné, ni avoir perdu la raison, Black Sad est devenu quelqu'un de différent de ce qu'il était à la base. À la base, c'était une recherche graphique, c'était un personnage plus qu'intéressant qui me fascinait, qui me motivait beaucoup. Maintenant, je me surprends parfois à y penser comme quelqu'un d'existant. Pas quelqu'un qui existe vraiment, mais comme quelqu'un de... comme une personne réelle. Comme quelqu'un dont la personnalité existe. Disons, lui, il existe. Sa personnalité, ce personnage, il existe, il est formé et du coup, il est quelque part là, dans ma tête, sur un disque dur et un dossier partagé avec Juan Diaz. Il est devenu quelqu'un de presque réel, on va dire.
Alors, ce cinquième volume qui s'intitule Amario met une nouvelle fois en scène des artistes qui sont soit victimes, soit coupables. Pourquoi finalement dans presque toutes les aventures de Black Sad, sauf dans le tome 2, y a-t-il des artistes et ont-ils une place si importante ?
Parce que Juan, mon scénariste, il tient à cœur souvent de raconter des histoires de ces personnes-là. Il aime bien ce trait de caractère de l'artiste, et notamment de l'artiste maudit. Et notamment pour le tome 5, il tenait à raconter une histoire dans ce milieu des beatniks, de la beat generation, des écrivains de ce mouvement qu'il trouvait très intéressant. Et voilà.
Et finalement, est-ce qu'il existe une sorte de malédiction pour l'artiste qui pèserait sur lui ?
Pas forcément. Il y a des artistes qui s'en sortent très très bien. Après, c'est souvent la malédiction de l'artiste, c'est parce qu'il est pas en accord avec l'art officiel de son époque, ou avec l'art officiel ou les tendances artistiques de son époque. Et c'est ça qui fait que souvent des créateurs qui veulent aller plus loin de ce qui se fait autour d'eux et dans l'époque qu'ils ont dû vivre, ils se sentent comme ça rejetés dans une démarche qui devient une pulsion, limite une pulsion qui est intéressante.
On a l'impression que cet album marque une pause pour Black Sad, dans le sens où dans les autres aventures il est moteur de l'action, des enquêtes, et qu'ici il subit un peu les événements. Est-ce que c'est un moyen pour lui d'exprimer quelque part son mal-être, parce que chaque fois qu'il essaie de s'impliquer, finalement il perd des êtres chers, il n'arrive jamais à boucler une enquête totalement victorieusement, et on perçoit une profonde dépression dans les premières pages de l'album.
Je pense que le personnage du détective dans le roman noir, dans le genre polar classique que nous on pratique dans Black Sad, en registre animalier, je pense que le personnage du détective en général, il est jamais moteur de l'action. Justement, c'est un personnage qui subit, c'est un personnage qui se voit embourbé dans une situation, un problème qui souvent le dépasse. Je trouve que dans ce sens, ce dernier tome, il est un peu en concordance avec les autres. Lui, il est engagé pour mener une enquête, et voilà, une enquête, c'est souvent trouver une personne. C'est pas des choses banales. À part le premier tome où il est voilà, lancé par un désir de vengeance. Dans les autres tomes, bon, il essaye de faire un boulot simplement et se retrouve avec des complications différentes. Donc celui-là, c'est même pas pour, ouais, c'est, le boulot, c'est même pas un boulot de détective, c'est juste un boulot tout simple de conduire une voiture et il va se retrouver mêlé à des histoires qui ne soupçonnait pas. Et voilà, dans ce sens, je trouve que ça reste, même dans ce sens, ça reste un détective classique et ça. Ce dernier cinquième tome peut être considéré comme une aventure de polar classique aussi.
On en apprend aussi un peu plus sur son passé et notamment la présence de sa famille. Est-ce que vous avez écrit le passé de Black Sad ou est-ce que c'est encore malléable ?
Non, justement, on s'interdit rien, on lance juste des pistes comme ça, mais on reste aussi intrigué que le lecteur par ce qui va devenir Black Sad ou qu'est-ce qu'on va apprendre sur son passé, sur sa famille, sur son entourage proche dans l'avenir.
Alors, je voudrais revenir rapidement sur deux personnages qui sont absents de l'album. Tout d'abord, Weekly. Est-ce que c'était nécessaire de l'écarter et pourquoi finalement apparaît-il si peu ?
Weekly n'a pas vocation à devenir le compagnon d'aventure permanent de Black Sad. C'est un sidekick, mais voilà, ce qui le rend intéressant aussi, c'est que on peut se permettre de ne pas avoir à l'utiliser. Sa présence est accessoire, même si quand il est là, il est important. Mais bon, tout dans le tome 3 aussi, il faisait de brèves apparitions, comme dans celui-là. C'est normal. Black Sad reste un héros solitaire. Mais là, on s'amuse, bien sûr, à chaque fois, à faire revenir Weekly à des moments où on sait qu'il va être apprécié. Et les gens, les lecteurs l'aiment beaucoup. On pense que... Voilà, quand on ne l'a pas, on le regrette, et quand il revient, du coup, les gens sont d'autant plus contents.
L'autre personnage qui est intriguant du tome 4 et qui n'apparaît plus, c'est cet ange gardien qui sauve Black Sad. Est-ce qu'il sera amené à être développé par la suite ?
Bah, surtout pas. Un personnage de détective qui se fait sauver la mise par son ange gardien à chaque fois qu'il est en danger de mort, je trouve que c'est un tue le drame. C'est vraiment le tue le drame, le tue le récit. Quoi. Il n'y a plus d'intérêt dans le récit du moment où on sait que tout est possible. C'est comme dans l'univers d'ici, ils ont inventé un truc qui s'appelle le puits de Lazare, où les personnages qui sont morts, bah, du coup, on les fout dedans et ils ressuscitent. Bah, écoutez, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien à raconter dans les histoires, il n'y a plus aucun intérêt, plus aucune tension dramatique, parce que c'est fini. Le danger ultime, le vecteur de tension dramatique ultime qui est la mort, bah, du coup, il est vaincu. Donc, tout personnage qui meurt peut revenir. Ça, c'est fini, il n'y a plus aucun intérêt à ce qu'on va raconter dans ce domaine-là.
Est-ce que du coup on peut dire que Black Sad a utilisé 3 de ses 9 vies ? Puisqu'on voit que ce mystérieux sauveur a 3 sirènes tatouées sur le torse, que 2 quand il sauve Black Sad quand il est plus jeune.
Oui, tout à fait.
Alors la couleur dominante de l'album c'est le jaune, ça donne même son titre à l'album en espagnol. Pourquoi cette couleur ?
Ça venait, c'était la succession logique. Au début, on n'avait pas prévu de faire cette succession de leitmotiv avec les couleurs. Mais après le deuxième tome, on s'est presque rendu compte qu'on avait une couverture noire, une couverture blanche, et que le sujet de la troisième pouvait amener la couleur rouge comme fil conducteur de l'histoire. Donc voilà, la suite c'était logique, le bleu, et puis la couleur primaire qui nous restait c'était le jaune. Mais là on considère que c'est clos, on va pas aller ni sur le vert, le violet, le rose.
Du coup, est-ce qu'il y aura-t-il un autre fil conducteur graphique dans les albums ?
On se l'est demandé, mais c'est un peu difficile, c'est trop tôt pour le dire, on verra bien. Là on a recherché, mais on se dit que bon, après, soit on trouve un autre fil conducteur, notamment pour les couvertures, soit on va pas se prendre à la tête avec ça. Ce qui est important, c'est de faire des albums, des histoires cohérentes, et voilà, et ça continue à plaire.
Alors le premier tome date maintenant d'il y a 13 ans. Quel regard portez-vous sur votre dessin et son évolution? Est-ce que c'est peut-être plus facile aujourd'hui de dessiner Black Sad?
Oui, et surtout, j'y prends plus de plaisir. Aussi, le passage par Sorcellerie a été, étonnamment, a été déterminant pour Black Sad, parce que le fait de pouvoir travailler l'ancrage avec la liberté du noir et blanc, comme dans les planches de Sorcellerie, m'a aidé à améliorer ma gestuelle et le côté jeté, qui est très présent dans la BD franco-belge, de cet ancrage vivant, expressif, naturel, presque pictural par moment. Et si j'avais pas passé par l'expérience, par la case Sorcellerie, je pense que mon ancrage serait pas le même aujourd'hui sur Black Sad, et je trouve qu'il y a un avant et un après. Et évidemment, les tomes 4 et 5 de Black Sad, au niveau de l'ancrage, moi je préfère mon style d'ancrage par rapport au précédent. Il y a une partie du public qui préfère mon trait à la plume. Maintenant je travaille au pinceau, et avant partie du public, comme je dis, préfère montrer à la plume, plus précis, plus graphique, moins léger, moins pictural. Mais pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est une évolution vers le meilleur.
Alors, est-ce que vous avez déjà commencé à discuter de la suite avec Juan Díaz-Canales, votre scénariste? Et notamment, y a-t-il un thème qui vous plairait plus particulièrement de développer?
On a des idées, mais pour l'instant c'est trop vague. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a envie de faire une histoire, de raconter une histoire plus longue et de développer une histoire en deux albums. Donc très probablement le sixième et septième tome de Black Sad constitueront un diptyque. Mais pour l'instant, bien sûr, on n'a pas d'idée plus précise, à part maintenant que Black Sad est revenu à New York, ce sera une enquête urbaine, plus dans les codes du polar que ces deux derniers l'ont été.
Alors, j'aimerais parler maintenant un petit peu de vos méthodes de travail. Black Sad, c'est l'Amérique mythique des années 50. Que représente le travail de documentation?
C'est un travail qui se fait soit en direct avec des voyages en repérage à New York ou à Nouvelle-Orléans, ou avec de la documentation qu'on recherche, qu'on obtient sur Internet, par des livres. Mon scénariste m'aide beaucoup à ce niveau-là, fait beaucoup de recherches de références graphiques qui m'aident beaucoup.
Et dans le scénario justement qui vous est donné par le scénariste, est-ce qu'il y a beaucoup de détails? Est-ce que vous avez eu une vraie liberté de dessinateur?
Non, justement, c'est un scénario qui est très 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 léger au niveau des contraintes narratives. C'est vraiment un scénario comme un scénario de dessin animé ou de cinéma, qui me laisse la porte totalement ouverte pour manier comme je veux le découpage de l'album, et ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Il y a beaucoup de clins d'œil dans Black Sad, notamment par exemple le nom du cirque qui fait référence à deux grands techniciens de chez Disney. Est-ce que Disney est une source d'inspiration pour le dessin animalier?
Oui, inévitablement, mais là c'était un clin d'œil à des maîtres du dessin animé, et sans plus.
Et quelles sont vos autres sources d'inspiration?
Beaucoup, Disney, moi particulièrement, après, pas que pour Black Sad, mais une de mes sources d'inspiration, ça a été Disney depuis toujours, mais bon, il y en a plein d'autres. Il y a eu Möbius, il y a eu Astérix, il y a eu la BD jeunesse espagnole qui m'a bercé, il y a eu les super-héros aussi, avec ce dynamisme particulier que j'essaye d'imprimer aussi dans mes dessins.
Quelques questions plus personnelles maintenant. Dans Black Sad, la musique est omniprésente. À titre personnel, qu'avez-vous écouté pendant la réalisation de cet album?
J'écoute beaucoup de genres de musique. Je suis très éclectique. Mais pour ce tome, j'ai écouté essentiellement du jazz. souvent avec Black Sabbath, c'est tout naturel, mais j'ai envie d'écouter du jazz, mais ça reste du jazz classique, du jazz mélodique, même des crooners, et voilà, les standards, c'est plus que du jazz, c'est plus large quand on parle du songbook américain, donc voilà, c'est ça, c'est vraiment une bande de son assez appropriée pour Black Sabbath.
Alors vous avez récemment participé à un concert dessiné avec le groupe
avec Sanseverino.
Avec Sanseverino, est-ce une collaboration qui va continuer, qui est amenée à s'étendre, et quel plaisir y trouvez-vous?
En fait, le spectacle vivant, du coup, ça m'intimidait beaucoup, mais voyant d'autres auteurs qui s'y risquaient et qui réussissaient le pari de faire un concert de dessin, ça m'a donné envie, et voilà, j'ai réussi à par le biais de la mairie de Péronne, j'ai réussi à contacter et convaincre Sanseverino pour qu'on fasse ça. On a fait deux concerts dessinés jusque là, c'était très sympa à chaque fois, une expérience très différente et très intéressante.
Plus généralement, quel est votre rapport à la musique?
Moi, j'adore la musique, elle est omniprésente dans ma vie. J'aime gratouiller, jouer la guitare chez moi, mais pour moi, j'ai eu à un moment donné un petit groupe de rock avec d'autres auteurs de bande dessinée, mais que j'ai quitté il y a quelques années. Et voilà, la musique, en tant que musicien amateur, ultra amateur, c'est quelque chose que je fais pour moi. Mais en général, et surtout après l'expérience avec Sanseverino, je me questionne sur les possibilités qu'on peut exploiter en unissant musique et dessin.
Alors une dernière question pour conclure, que représente pour vous le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, et pensez-vous, pourquoi pas un jour, devenir Grand Prix du Festival?
Ah non, je ne pense pas, je ne suis pas auteur complet comme le sont la totalité, je pense, virtuelle totalité des Grands Prix du festival, j'y aspire pas spécialement, ce n'est pas, enfin, moi j'aspire à faire du dessin, à faire de la bande dessinée, toucher d'autres domaines du dessin, c'est tout. Mais Angoulême, c'est un rendez-vous de tous les ans pour retrouver le public et retrouver les collègues auteurs, qui est incontournable et très agréable, un peu fatigant, mais agréable.
Rodrigo Garnido, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.